Bonsoir, chers amis mélomanes, voici Opéra Agora, notre émission mensuelle sur l'opéra, ses compositeurs, ses interprètes et quelques anecdotes vécues dans ma carrière de chef d'orchestre directeur d'opéra. Après le cycle Verdi entamé l'année passée et qui nous a conduit à évoquer les nombreux chefs-d'œuvre de l'opéra italien du XIXe siècle, nous entamons ce soir un cycle opéra français. L'opéra français, bien que prolifique et très important quant à la qualité du répertoire, est tout de même beaucoup moins nombreux que l'opéra italien. C'est pour cela que nous l'évoquerons non pas pièce par pièce, mais compositeur par compositeur. J'avais déjà parlé de l'opéra français et de ses titres principaux lors de mes premières émissions, mais c'est maintenant, avec ce cycle, l'occasion de détailler ses grands chefs-d'œuvre. Nancy Zottier, la réalisatrice de ces émissions, est à son poste et commençons donc notre nouveau cycle. Ce soir, hommage à Jules Massenet, incontournable compositeur français du XIXe siècle et début du XXe, dont les chefs-d'œuvre sont toujours interprétés partout dans le monde. Massenet est né en 1842 et mort en 1912, à 70 ans, des suites d'un cancer. Il était le benjamin d'une famille de 12 enfants. Étudiant, Massenet gagne sa vie en jouant des timbales dans l'orchestre de l'Opéra de Paris. Et c'est là qu'il est le mieux placé pour apprendre son métier de compositeur. Quand j'étais moi-même étudiant en classe de direction d'orchestre, le passage dans la fosse d'orchestre pour tenir quelques percussions bénignes du genre cymbales ou grosses caisses était incontournable pour nous faire étudier en direct l'orchestration. Massenet étudie le piano avec succès et entame des études de composition sous le regard bienveillant d'Ambroise Thomas. Ambroise Thomas, c'est le compositeur à la mode à Paris à cette époque, avec son opéra Mignon. En 1863, Massenet est Grand Prix de Rome à 21 ans. Et alors, Liszt le prend sous sa protection. Après des œuvrettes de jeunesse comme Esmeralda, Manfred, Méduse, il entreprend la composition sérieuse de grands opéras. Son catalogue général comporte 450 titres, car il a abordé tous les registres de la musique. On trouve des œuvres pour piano, en particulier un concerto, des symphonies, des oratorios, des opérettes, des mélodies, de la musique de chambre. Mais il est surtout célèbre pour ses opéras les plus fameux, dont voici la chronologie. 1881, Hérodiade. 1884, Manon. 1885, Le Cid. 1892, Werther. 1894, Thaïs. 1902, Le Jongleur de Notre-Dame. Et 1910, Don Quichotte. Sans parler de ses opéras inachevés ou très peu joués, comme Le Roi de Lahore, Cléopâtre ou encore Panurge, qui sont véritablement de petites œuvres que l'on ne joue plus depuis longtemps. Effeuillons ce catalogue en écoutant une page fameuse d'Hérodiade, son opéra biblique. C'est le moment où le roi Hérode, envoûté par la belle et mystérieuse Salomé, se drogue avec un breuvage diabolique pour pouvoir conserver toujours l'image de la belle inaccessible. Écoutons le baryton Juan Ponce, vision fugitive.
Je pourrais la revoir, contempler sa beauté, divine volupté, comme regard promise. Espérance trop brève qui vient verser mon cœur,
saxophone alto dans l'opéra. C'est un instrument qui venait juste d'être construit par son créateur, Monsieur Sax, d'où le nom de saxo. Saxo alto, en l'occurrence, Massenet recommencera à l'employer dans Werther et prendra l'habitude d'introduire tous ses grands airs d'opéra par un solo instrumental. Pas toujours le saxophone, quelquefois la clarinette. Ce qui démontre l'importance de l'orchestre dans sa composition lyrique. 3 ans plus tard, en 1884, il compose Manon, d'après le roman de l'abbé Prévost, que l'on considère comme le créateur du roman français avec Madame de Lafayette et Madame de Staël. Manon fait partie de ces opéras particuliers où l'interprète principal doit pouvoir adapter sa voix, depuis le registre léger jusqu'au registre dramatique. C'était déjà le cas, souvenez-vous, avec la Traviata de Verdi. Ici, même le ténor doit s'adapter et pouvoir être mozartien ou bien ténor lyrique, appuyé, spinto, comme l'on dit dans notre jargon. Selon la dramaturgie, c'est le cas du merveilleux ténor, le regretté Nikolaï Gedda. Écoutons-le dans ce charmant morceau, tout en finesse vocale, intitulé « Le rêve ». En fermant les yeux.
Instant charmant où la crainte fait rêve, où nous sommes du seul vent. Tiens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve. En fermant les yeux, je vois là-bas une humble retraite, une maisonnette toute blanche au fond du bois.
La belle Manon est frivole et attirée par la fortune, elle rompra cette idylle pour vivre à la cour du roi. Écoutons la nouvelle Manon, maintenant la courtisane, et non plus la petite villageoise effarouchée. Écoutons la belle Renée Fleming nous chanter les adieux à la petite table, instant charmant, un peu tristounet. Adieu notre petite table, moment de grand romantisme dans le récitatif surtout, et de simplicité absolue dans l'aria dépouillée au maximum. Écoutons Renée Fleming.
Plus digne de lui.
chevalier dégrieux, tellement épris de Manon, eh bien, il vient d'être abandonné sans sommation par la belle courtisane. Il s'est réfugié dans la religion pour fuir son désespoir. Il est entré dans les ordres, mais la belle vient le relancer à Saint-Sulpice. Et il essaie en vain de se soustraire à l'amour de la traîtresse. Rien n'y fait, elle finira par avoir le dessus. C'est le grand air de Saint-Sulpice, dans lequel Massenet se surpasse, dans une ambiance enflammée où filtre la lumière de la foi religieuse au deuxième plan. Écoutons Jonas Kaufmann, spécialiste du rôle de Desgrieux, dans cette page « Fuyez, douce image ». Cet opéra, Manon, je vais vous confier une anecdote vécue du temps où je dirigeais beaucoup Manon en Europe, dans les années 1990. Voilà. C'est vieux, mais tout de même, 1990. Figurez-vous que Manon est un opéra beaucoup remanié par le compositeur jamais satisfait, ce qui finit par aboutir à des ajouts peuvent devenir interminables. C'est le cas pour de nombreux opéras remaniés, en particulier les contes d'Hoffmann d'Offenbach ou encore le Tannhäuser de Richard Wagner, qui comportent plusieurs versions tellement ils ont été remaniés. Le chef d'orchestre décide alors de faire des coupures, en conservant bien sûr l'essentiel et en se conformant plutôt à l'original plutôt que aux divers remaniements. Mais pour Manon, c'est particulier, car l'arrière-petite-nièce de Massenet, Madame Ariane Massenet, menaçait les chefs d'orchestre de procès en justice en cas de coupure. Mais cependant, il fallait bien que l'opéra ne soit pas interminable et indigeste. Il fallait donc ruser, permettre de jouer la pièce sans trop faire de coupure et que le public soit satisfait. Il fallait promettre, comme les hommes politiques, et ensuite ne pas tenir la promesse. Mais quelquefois, Ariane Massenet assistait au spectacle et les murs des opéras résonnent encore des disputes entre la terrible nièce du compositeur et les chefs d'orchestre, dont moi-même, fou furieux, mais implacable. L'année suivante, en 1885, Massenet compose le Cid, d'après la tragédie de Corneille. C'est un opéra intéressant, mais pas assez joué pour devenir véritablement un tube de l'opéra. Ce n'est pas un opéra qui peut rivaliser avec les meilleurs titres de Massenet. Cependant, quelques beaux airs continuent de maintenir cet opéra au répertoire de certains théâtres. C'est le cas avec le célébrissime air de Chimène, « Pleurez mes yeux », qui dépeint à merveille la tristesse de Chimène qui vient de voir son père tué en duel par le Cid, son amant. Écoutons Maria Callas dans cette page à la fois intérieure et majestueuse. Pleurez mes yeux.
Soupirer sans
Cette fois-ci, c'était l'introduction à la clarinette et non pas au saxo. Admirons l'admirable diction de la Callas qui cisèle chaque parole et la rend compréhensible. L'année 1892 marque la création du chef-d'œuvre suprême de Massenet, Werther, d'après le roman philosophique de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Cet opéra est du plus haut niveau artistique, du début à la fin. Le romantisme tragique qui conduira Werther au suicide à cause de l'amour impossible avec Charlotte, qui est, hélas, fiancée à Albert. Ce romantisme trouve en Massenet le niveau sublime qui convient à une œuvre de Goethe. Véritable essai philosophique sur le suicide. Nous sommes ici à la première rencontre entre Werther et Charlotte, sous le fameux clair de lune, tellement devenu célèbre, que l'on entend maintenant dans toutes les sonneries de téléphone, dans toutes les pubs. C'est dire si c'est une musique qui a fait son chemin. Et déjà, eh bien, il est là, ce clair de lune, devant cette union impossible. « Il faut nous séparer, » dit Charlotte. La nuit tombe. Écoutons Tatiana Troyanos et mon ami le regretté Alfredo Kraus. Clair de lune.
Thank you.
entendu cette mélodie qui a été mise à toutes les sauces. Hein. Bah, c'est quand même une preuve que c'est là une musique finalement immortelle. Mais Werther est jaloux et furieux devant cet impossible amour, car Charlotte est fidèle à son engagement. Et c'est l'occasion de découvrir un Massenet puissant, viril, passionné, loin des demi-teintes et de la sensiblerie. Un autre est son époux. Écoutons la furie de Jonas Kaufmann qui tonne son désespoir. Un autre est son époux. Prestation de Jonas, qui se sert de son médium très sonore. N'oublions pas qu'à ses débuts, il était baryton et pas ténor. Mais comme il a un aigu très facile, eh bien maintenant il chante tous les rôles de ténor. Charlotte, la vertueuse, est tout de même amoureuse de Werther. Et elle relie sans cesse les lettres désespérées que celui-ci lui a écrites. Et elle redoute le pire pour celui qu'elle aime en secret. Écoutons-le, ce merveilleux air des lettres, poème musical où l'on découvre enfin le très très grand Massenet. Apogée de son talent. Écoutons Elina Garancha, les lettres.
Werther, Werther,
Par se suicider avec le pistolet fourni intentionnellement par le mari de Charlotte. Mais avant, il nous confie son désespoir et l'absurdité de continuer à vivre. Thème philosophique, s'il en est chez Goethe. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps. Écoutons l'immense ténor Albert Lance, ténor d'origine australienne qui a fait une immense carrière dans les années 70. Écoutons « Pourquoi me réveiller ?» Albert Lance. C'était une star qui chantait régulièrement avec la Calas. c'est dire. Eh bien, cet homme merveilleux se prêtait très volontiers à l'exercice de notre conservatoire à Nice. Il prêtait son immense talent aux élèves de direction d'orchestre du conservatoire qu'il accompagnait en toute simplicité avec l'orchestre. Et ensuite, cela se poursuivait à Paris avec l'orchestre de l'Opéra de Paris. C'était un homme d'une générosité immense. Il mérite véritablement d'être cité pour son talent, mais aussi pour sa grandeur d'âme. Cela ne court pas les rues. Je salue la mémoire d'un grand seigneur et d'un grand ami. C'est la première star que j'ai dirigée. Il restera à jamais dans mon cœur. Nous voici maintenant en 1894. C'est le moment de Thaïs. Thaïs, la belle courtisane égyptienne. Dernière grande inspiration de Massenet. Opéra biblique, d'après le roman d'Anatole France. Ah, Anatole France, quel grand écrivain! Hélas, un petit peu mis maintenant au placard. Dommage, si vous devez lire un seul de ses romans, lisez « Les dieux ont soif ». C'est une merveille. Massenet renoue avec l'histoire antique sur fond de religion. Le moine Athanaël s'éloigne de Dieu et succombe à la beauté de cette courtisane égyptienne. Et il chante un air sur la ville Alexandrie, la ville du péché, en espérant peut-être retrouver maintenant la voie de la spiritualité. Mais non, car la belle Thaïs est là et elle ne se préoccupe que de sa beauté et de sa frivolité et de sa séduction. Mais la vieillesse est à venir. Châtiment de toutes les belles courtisanes. Elle confie ses doutes à son miroir et lui ordonne « Dis-moi que je serai belle éternellement. » Écoutons cet air magnifique par Ivan Moula. « Dis-moi que je serai belle. »
Thank you. delicious river, eterne amour, eterne amour. Cure una flitira le rose, je suis belle et que je serai
des dernières pages de Jules Massenet, qui, maintenant bien malade, écrira encore Le Jongleur de Notre-Dame et Don Quichotte, qui sont des succès d'estime. Mais, comble pour un compositeur d'opéra, et donc de musique avec texte, eh bien, son œuvre la plus connue, durablement, sous tous les cieux musicaux, eh bien, ça restera une œuvre instrumentale. Une œuvre instrumentale pour violon solo. Vous connaissez tous cette page. C'est la célèbre et magnifique méditation de Thaïs pour violon, accompagné par une harpe et par un orchestre symphonique, mais qui peut se jouer également en solo ou bien accompagné par le piano. Écoutons maintenant Renaud Capuçon, grand musicien français, et c'est avec cette page qu'avec Nancy, je vous salue et vous laisse rêver et méditer. Bonsoir, au mois prochain.